Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble, comme chaque jour, jusqu'à 15h, midi, 15h, 3h de direct avec aujourd'hui Rémi Barré. Salut Rémi.
Salut Estelle et bonjour à tous.
C'est la première fois dans l'histoire d'Estelle Midi qu'il n'a pas sa veste noire.
C'est
il
vrai.
Est en chemise bleu pâle et ça lui va à ravir le journaliste de Marianne Péricot, les gars. Salut Péricot.
L'été étant arrivé, je me mets en tenue de saison.
Oui, mais cette tenue de saison vous va à ravir.
Elle ne durera pas.
Mais j'aime beaucoup. Nous sommes également avec le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. Salut Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
Lui, il a son inamovible veste grise. Et
absolument.
Puis le journaliste et écrivain dont les ventes de livres ne cessent de monter. Où s'arrêtera-t-il? C'est notre journaliste maison, Fred Hermel. Salut Fred.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Allez, au sommaire d'Estelle Midi. Aujourd'hui, un projet d'usine et la création de 500 emplois abandonnés à cause des écologistes. Faut-il tout sacrifier au nom de la protection environnementale? On attend vos réactions au 32-16, midi et demi. L'Allemagne qui réfléchit à mettre en place la semaine de 32 heures. Faut-il aussi tenter l'expérience en France? À 13 heures, la journée mondiale sans tabac. Doit-on passer le paquet de cigarettes à 20 euros pour dissuader les fumeurs? Vos réactions, bien sûr, sur l'appli RMC, rubrique direct studio. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. Et puis à 14h, près de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans préféreraient travailler à leur compte plutôt que de signer un CDI. Le contrat à durée indéterminée vous fait-il encore rêver? Et puis on termine avec un événement vendredi, Rémi, événement dans Estelle Midi.
Oui, nous serons en direct d'Angers, où on peut désormais nous écouter sur 94 FM. Émission donc en direct d'Estelle Midi depuis le théâtre Le Quai, c'est en plein centre-ville d'Angers. Et si vous voulez assister à l'émission, eh bien vous pouvez vous inscrire sur public@rmc.fr.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, on va démarrer Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est ce projet d'un grand groupe industriel français, le groupe Le Duff, abandonné suite aux nombreuses contestations des écologistes. Ce projet d'usine de viennoiserie devait créer 500 emplois dans la région, mais il a pris tellement de retard que le groupe agroalimentaire a décidé de jeter l'éponge et ce n'est pas la première fois, Rémi, que les écologistes obtiennent gain de cause.
Et les exemples sont nombreux. Parmi les derniers en date, l'abandon en février dernier du projet de plateforme logistique Terra 2. Il était prévu au nord-est de Toulouse. Il prévoyait la construction d'un entrepôt géant de 70 000 mètres carrés sur 12 hectares de terres agricoles. 250 emplois à la clé. Abandonné aussi en 2019 le projet Europa City, ce méga complexe mêlant loisirs et commerce à Gonesse dans le Val d'Oise. Auchan et Wanda, son partenaire chinois, espéraient y attirer 30 millions de visiteurs par an. Là encore, opposition des écologistes, abandon. Parmi les autres victoires récentes de ces écologistes, on pourrait également évoquer l'abandon, souvenez-vous, du projet de Center Park de Roibon en Isère au terme d'une lutte de plus de 10 ans. Le groupe Pierre et Vacances a jeté l'éponge en 2020 alors que le terrain était occupé par des zadistes. Le projet d'un montant de 390 millions d'euros prévoyait la construction dans la forêt de Chambaran de 1000 cottages, de commerces, de restaurants autour d'un espace aquatique avec 800 emplois pérennes à la clé d'après le groupe. Sur son site, le média écologiste Reporter tient d'ailleurs à jour une carte des luttes contre les grands projets inutiles, c'est ainsi qu'elle est baptisée cette carte. Ferme-usine, entrepôts, centres commerciaux, il y a plusieurs dizaines de projets cités à travers tout le pays dans le viseur de ces écologistes.
Alors, faut-il sacrifier notre industrie au nom de l'écologie, Péricot les gars?
Si c'est vraiment une question de protection de l'environnement, ça n'a pas de prix, on ne se pose même pas la question. Maintenant, j'aimerais bien voir au cas par cas, est-ce que l'environnement est vraiment menacé? Quelles sont les conséquences? C'est vrai que des emplois, c'est précieux. Le tout est de savoir une question très bête. Est-ce que ça fait plus de bien ou plus de mal à notre planète, à notre société et aux gens qui sont là? Si ça fait plus de bien qu'on crée cette activité économique, il faut le faire, même s'il y a un petit préjudice environnemental. Si le préjudice environnemental, naturel, social, culturel est majeur à l'avantage que ça pourrait supposer, eh bien on fait un choix. Mais c'est un choix à faire par les élus locaux, par la population locale, par les décideurs économiques locaux. Voilà, ça se décide pas, et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons souvent des anathèmes.
Ça fait plusieurs années qu'il y a une contestation.
C'est bien, mais nous avons eu des anathèmes écologistes, verts, hystéro-totalitaires, qui ont jeté l'opprobre sur des projets qui étaient plus ou moins respectable. Et puis, il y a des fois où ils avaient raison. Donc, quand ils ont raison, ben, il faut aller dans ce sens-là. Mais j'aimerais bien examiner vraiment au cas par cas, par des comités objectifs.
Ben, c'est fait.
Oui, mais la pression.
Normalement, la justice est objective. Pression, il y a eu des recours judiciaires.
La pression médiatico-politique est telle, quelquefois, que même un projet qui est une juste cause, on jette l'éponge, parce qu'on sait qu'ensuite, soit on va avoir une ZAD, soit avoir un anathème. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on apaise un petit peu ce débat, et qu'on voit bien au cas par cas. J'ai plutôt tendance à dire qu'il faut privilégier l'environnement parce que c'est l'avenir de la planète, même si ça perd des emplois. Mais c'est pas toujours justifié, donc voilà.
Je sais que ce sujet vous fait bouillir, Fred Hermel.
J'ai peur de ce que je vais dire, donc je vais me contrôler.
Oui, mais je suis là pour vous arrêter.
Oui, ouais, non, mais vraiment, je te demande de m'aider parce que quand il y a quelques heures, j'ai vu cette information, j'ai eu envie de tout casser. Qu'en fait, ces gens-là sont des assassins, ce sont des traîtres.
Ouais, tu vas loin là.
C'est des assassins d'emploi.
Mais tu peux pas dire ça.
Des assassins d'emploi. Alors moi, ce qui me
destructeur d'emploi, peut-être.
Des assassins d'emploi. Parce qu'il y a préméditation. Donc quand un patron voyou. Vous savez, ces patrons voyous qui ferment des usines pour faire des profits et qu'il y a plein de gens, etc. On est tous à dire qu'il faut se battre contre les patrons voyous et les écologistes aussi, mais ils font exactement la même chose. C'est-à-dire que là.
Attends, excuse-moi, il y a une raison objective.
Oui, la raison, c'est parce que ces gens-là sont pour la décroissance. C'est-à-dire que ces gens-là, ce sont des ennemis de l'intérieur. Ah. En plus, c'est totalement ridicule d'un point de vue écologique, puisque c'est un groupe français.
Oui.
Qui voulait installer une usine en France avec les normes environnementales françaises qui sont très sévères.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est qu'il va s'installer ailleurs. Ailleurs où les normes sont moins strictes, donc ça sera pire pour la planète. C'est-à-dire que installer une usine avec les normes françaises, c'est mieux que de l'installer ailleurs.
Ok, mais toi, Fred, quelque part, là où tu es incohérent, c'est que tu défends sans arrêt les produits du terroir, notre artisanat, etc. Et notamment nos boulangers. Tu peux aussi quelque part aussi te réjouir en te disant peut-être que à la place de viennoiseries industrielles, on pourra peut-être dans la région implanter peut-être plus de boulangers, plus de pâtissiers, faire de pâtisseries artisanales. Tu peux pas d'un côté défendre l'artisanat et de l'autre côté défendre des viennoiseries industrielles.
L'artisanat doit être complémentaire de l'industrie pour pouvoir nourrir le plus grand nombre.
C'est un peu paradoxal.
Simplement, avec l'artisanat, on ne peut pas nourrir tout le monde. C'est une évidence. Donc là, ce sont les normes françaises, une entreprise française qui paye ses impôts en France avec des contrats de travail. C'est 500 emplois directs et 1500 emplois induits.
Mais si elle ne respecte pas les normes environnementales.
Mais bien sûr que si elle les respecte. Simplement, qu'est-ce qui se passe
dans
ce cas?
Si la justice dit qu'elle les respecte pas.
Mais tout simplement, pourquoi? C'est parce que ce magma incroyable administratif français font que les écologistes utilisent. C'est comme les ennemis du pays, ils utilisent les lois de la démocratie française pour empêcher. Donc, à un moment,
ça
prend tellement de temps, puisqu'il y a des recours possibles. C'est pas que, sûrement qu'à terme, la justice aurait donné raison à cette entreprise.
On n'en sait rien.
Sauf qu'elle perd, ça perd tellement de temps qu'à un moment, ils allaient. Moi, je suis français, je veux créer des emplois en France et je vais aller les créer ailleurs. Moi, je suis dégoûté.
Est-ce qu'il faut tout simplement changer notre modèle industriel, Thierry Mo?
Déjà, l'argument de la petite boulangerie artisanale, j'aimerais redonner un chiffre, 80% des viennoiseries que vous mangez aujourd'hui dans toutes les boulangeries françaises, y compris les boulangeries de quartier, sont produites de façon industrielle. 80%. Peut-être la vôtre. Moi, je sais que la mienne, non, parce que j'ai vérifié, mais 80%. Donc, le fait d'enlever cette usine n'empêchera pas que vous avez... La deuxième chose, c'est que la décroissance n'est pas une option. On peut pas aujourd'hui se dire on va moins se développer. Ce qu'il faut, c'est une croissance qui soit mesurée, respectueuse de l'environnement, de la planète, créatrice d'emplois dans le renouvelable, etc. Contrôlée. Et comme l'a très bien dit Fred, aujourd'hui en France, on a des normes environnementales qui sont très strictes.
Ah,
parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais aller plus loin que ce qu'a dit Fred. Bridor a acheté une société au Portugal qui s'appelle Panidor et ils vont donc créer 500 emplois là-bas avec des normes environnementales sans doute pas les mêmes. La consommation d'eau, parce que alors ça a été un des points que les écolos ont mis en avant, 187 000 mètres cubes d'eau. Oui, parce que pour faire du pain et des viennoiseries, il faut de la farine et de l'eau. Donc que ça soit là,
il faut faire marcher des fours
au Portugal ou je sais pas où, ce sera toujours 187 000 mètres cubes d'eau.
Oui,
donc ça ne changera pas le problème. On ne fait que envoyer chez les autres un problème écologique. Donc c'est un non-sens
grave là-bas.
C'est un non-sens absolu. Donc je trouve ça. Je n'emploierai pas les termes qu'a employé Fred parce que
mais
je suis
mesuré.
Mais je suis à peu près sur
la. Et ça empêchera pas la grande distribution d'apporter les brioches en question.
Mais ça c'est sûr. Mais bien sûr. Est-ce qu'on aurait dû utiliser un référendum quand même pour demander l'avis de la population?
Non.
Parce que s'il est important cet avis.
Non. Ça ne concerne pas, non. En Suisse, on fait des votations pour tout.
Oui, exactement.
Je ne suis pas contre le principe, mais là, pour le cas, le commun des mortels, à moins de lire la totalité du dossier, vous rendez compte le fastidieux. Oui, voilà. Mais je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a un comité territorial que le gouvernement institue dans tous les territoires. Il y a un enjeu économique. Voilà, effectivement, Fred, il est un petit peu excessif, parce que bon, bien sûr, mais tu dis, il faut que les pauvres mangent.
Mais il faut que ça soit donc délocalisé, parce que sinon les enjeux locaux vont jouer.
En tout cas, cette usine, c'est l'usine française.
Hein. Oui. Ça veut dire que les pauvres sont condamnés.
Ce que je veux dire, c'est que le comité qui doit décider de ça, il ne doit pas être prisonnier des intérêts locaux. Donc, il faut que ça soit délocalisé. La justice, vous disiez tout à l'heure, Estelle, très bien, mais la justice, elle se définit en droit, pas forcément par rapport aux créations d'emplois. Elle ne regarde juste si ça respecte la loi.
Il faut voir si l'enjeu est justifié. C'est une demande. Est-ce que c'est juste le profit de ce groupe, ce profit financier, il s'installe là pour ne faire que des bénéfices sans tenir compte de la situation sociale.
500 emplois.
D'accord, mais 500 emplois pour fabriquer de la brioche. Alors donc les pauvres sont condamnés à manger de la qualité.
Non, parce que c'est aussi pour du 4 étoiles. C'est aussi de la viennoiserie de luxe.
D'accord.
Industrielle, mais de luxe.
Donc on ne garderait que la partie, moindre. Est-ce que aussi Bridor peut dire, je vais repenser ma production.
Exactement.
Voilà, dans le sens de l'environnement, je vais voir. Je ne porte pas préjudice à l'artisanat local parce que ça peut le tuer aussi.
Oui.
Et il faut. Voilà, le but c'est d'avoir que de l'artisanal. La grande distribution industrielle, c'est du provisoire, si on veut que la planète survive. Mais pour l'instant, on en a besoin. On ne peut pas s'en passer.
Ça, voilà. C'est sûr.
C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Alors, on est avec Eric. Eric, il nous appelle de Liffré en Ille-et-Vilaine. Et Liffré, c'est justement l'endroit où devait être implantée cette usine Bridor. Eric, il est entrepreneur. Merci Eric d'être avec nous.
Oui, bonjour à tous. Exactement. Bonjour. Je suis à Liffré et le dossier Bridor, on en entend parler beaucoup, beaucoup évidemment ici.
Alors qu'est-ce qu'on dit justement à Liffré là-dessus?
C'est toujours pareil, c'est-à-dire que la minorité se fait plus entendre que la majorité. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, ce qu'il faut reprendre quand même au niveau du contexte, c'est que ici, on est à 10 minutes au nord de Rennes. On est dans un secteur vraiment extrêmement dynamique. On est une commune très dynamique avec beaucoup d'entreprises qui s'installent, qui se développent. On a une grosse société, on a Canon qui a plus de 600 salariés qui sont là, qui est là depuis des années. Donc vraiment, j'ai envie de dire, 500 emplois, ce serait, je pense, plus dramatique en moins dans les Ardennes qu'ici, parce que vraiment, il y a du travail ici. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est je suis d'accord avec Fred Hermel, exactement avec ce qu'il a dit. Ce qui est dommage déjà d'abord, c'est que le groupe Le Duf, donc qui est propriétaire de Bridor, est une société rennaise qui a son siège social mondial à Rennes. C'est comme une multinationale qui a son siège social à Rennes, qui a son centre de formation à Rennes, qui a déjà une usine à Cervon-sur-Vilaine qui est située donc à 15 minutes de Rennes et qui veut en implanter une deuxième au nord de Rennes. Donc vraiment, qui veut se développer en local. Moi, je trouve ça génial. Je veux dire, les entrepreneurs locaux, c'est vraiment le top. Là, il fait pas son usine parce qu'il a pas d'autorisation. C'est pas la réalité. C'est pas qu'il a pas d'autorisation. C'est qu'il y a plein de recours. Et donc, les associations écologistes vont faire traîner. Et c'est ce qu'il dit, lui, Le Duf, en l'occurrence, le président. Il dit, à ce rythme-là, moi, on va avoir une usine dans 10 ans. Voilà. Et donc, nous, on n'a pas le temps d'attendre. On a une croissance économique et on a surtout une demande à l'export. Parce que ça va pas faire de la concurrence au petit boulanger. C'est fait pour livrer dans des grands hôtels aux quatre coins de la planète. Et donc, il me semble, je suis pas sûr, mais je crois que la France a un déficit commercial de 160 milliards d'euros. C'est pas ça chaque année. Là, c'est pour 500 emplois pour exporter dans le monde entier un savoir-faire français, peut-être au niveau industriel, c'est vrai, la viennoiserie, boulangerie industrielle, mais c'est fait pour exporter dans le monde entier. Et on va s'en priver. Mmh. Et je suis désolé, mais des déficits d'eau, de consommation, etc. Vous croyez sincèrement que le groupe Le Duf n'aurait pas obtenu d'autorisation s'il n'y avait pas eu toutes les études qui auraient été faites?
Bien sûr,
comme le dit très bien Fred Hermel notamment, il dit, mais là, si ça va pas être fait ici en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, à Rennes, mais ça va être fait à l'autre bout de la planète.
Au Portugal.
Au Portugal, en l'occurrence.
Il va aller la faire à l'autre bout. Et je vais vous dire une chose.
Et en Amérique du Nord.
Exactement. C'est exact. Oui, bien sûr. Au Canada. Il a agrandi d'ailleurs son usine. Là-bas, il n'y a pas de problème. Et je vais vous dire une chose. Ça fait exactement comme le bassin de Sainte-Soline. C'est-à-dire que le jour où les agriculteurs n'auront plus d'eau pour produire en France, qu'est-ce qui va se passer? On va importer le blé de l'autre bout de la planète avec un déficit carbone, mais catastrophique.
C'est
comme le poulet qui vient du Brésil, c'est pareil. On a des normes drastiques en France, autant produire en France. Je veux dire, donc c'est vraiment dommage de se passer de 500 salariés, et je suis sûr qu'on peut allier industrie et écologie.
C'est certain. Totalement d'accord avec vous.
On peut le faire. Et c'est vraiment dommage. Et là, on va avoir des associations écologiques qui vont nous sortir 2-3 encore. Comme d'habitude, des conneries. Et je suis sûr qu'au bout du bout, hein, les recours.
Ah, c'est pas toujours des conneries. Enfin, bon, voilà, on ne peut pas dire ça. Non.
Moi, je n'ai pas des statistiques là-dessus.
Je
veux juste dire, c'est que, au bout du bout, vous auriez vu que les recours auraient été tous rejetés. Et qu'est-ce qui serait passé? On aurait une petite ZAD qui serait installée. Mais oui, c'est ça le problème, c'est que c'est le plus dangereux.
On ne peut pas y avoir des ZAD partout à un moment.
Quand en France, une implantation d'un site comme ça prend 10 ans avec les recours et que les concurrents, eux, y mettent 1 à 2 ans à installer.
On est battu. Merci Eric, pour ce point de vue. Notre invité sur ce débat, c'est Pascal Branchu. Il est président de la Nature en Ville et c'est un opposant, bien sûr, au projet de cette usine Bridor. Bonjour Pascal Branchu.
Bonjour Estelle, Denis, bonjour à tout le monde.
Pascal, vous savourez votre victoire aujourd'hui, le fait de voir que Bridor ne va pas s'implanter à Liffré en Ille-et-Vilaine?
Alors c'est une annonce, hein, c'est un communiqué de presse, c'est en rien un renoncement officiel de l'entreprise Le Duf, hein, puisque c'est une industrie dont je rappelle que le seul actionnaire c'est Le Duf lui-même. Hein.
Entreprise familiale, c'est bien.
On va quand même pas critiquer le patron de Le Duf là. C'est quand même compliqué.
Non, mais je rappelle juste par rapport à ce que j'ai entendu avant.
Il paye ses impôts en France, ça pour le coup.
Voilà. Donc nous, on est une association environnementaliste qui évolue dans un cadre de droit. Mm-hmm. Et c'est vrai que les habitants nous ont sollicité parce que ce projet-là, il serait prévu sur une double tête de bassin versant, sur des terres agricoles qui sont encore cultivées. Hein. Hier, c'était encore en culture avec des paysans locaux. Voilà.
Mais peut-être que les paysans, ils auraient été contents de céder leurs terres.
Voilà. Donc là-dessus, si vous voulez, ce projet-là, il enfreint quand même 3 directives cadres européennes, ce qui fait beaucoup pour un seul projet.
Oui, mais Pascal, est-ce que les paysans, ils avaient dit non? Parce que si on leur propose un bon prix pour leurs terres, je pense que, vu la difficulté du métier actuel, peut-être que les paysans auraient été très contents de vendre leurs terres.
Faut leur demander. Nous, on a.
Vous ne demandez pas, vous. Mais c'est un problème en soi de transformer une terre agricole en zone industrielle. On est en train de foutre le pays en l'air.
On bétonise.
Voilà.
Après, ils vont manifester contre les paysans. Toute la journée, ces gens-là attaquent les paysans.
Mais arrête de dire ces gens-là.
Je suis d'accord. Je te dis qu'il faut protéger aussi.
C'est ce que je vous dis.
Les terres agricoles. Voilà. Ça, c'est un sujet.
Voilà. Et on veut être respecté dans notre démarche. Nous, on n'est pas là. On est pacifique. Voilà. On vous donne rendez-vous le 10 juin sur place, puisqu'il y a une nouvelle mobilisation. Et même demain soir, dans un bar de Rennes, on va projeter une enquête qui a été diligentée par Vaxita, donc c'est Hugo Clément, qui a fait un travail journalistique de fond. Mmh. Et c'est bien d'objectiver et sortir d'un débat dépassionné. Parce qu'en fait, le DUF, qu'est-ce qu'il fait? Le DUF détruit de l'emploi qualifié ailleurs. Logistique industrielle.
Oui, mais vous pouvez pas dire ça. Mais c'est son métier. L'industrie, c'est son métier, Pascal Branchu. Donc à un moment, enfin malheureusement aujourd'hui, par exemple, on peut être contre les voitures et vouloir retourner à la calèche. Mais c'est vrai que là, c'est. Ben oui, mais là moi je comprends qu'effectivement vous disiez que voilà, ça enfreint 3 règles européennes et tout. Ok, pas de problème. Mais de là à dire qu'il détruit des emplois, là en l'occurrence, il voulait quand même en créer 500.
Non. En fait, il a très bien dit votre collègue, c'est la Rennes. Vous avez plus que 20% d'artisans boulangers. Tout le reste, c'est des surgelés qui vendent au prix de l'artisan boulanger en passant.
Exactement.
Derrière, c'est pas une industrie. L'industrie, ça fait travailler les PME. C'est pas le cas pour le projet Bridor.
1500 emplois.
Il y a
indirect.
Aucune matière première qui vient de Bretagne. Mmh. C'est destiné tout à l'export. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle du pillage de ressources sur les sols agricoles, sur l'eau, sur l'énergie et même les transports. Ça fait quand même 150 semi-remorques réfrigérés par jour. Car la production, c'était la plus grande usine du monde qu'ils avaient prévu. C'était 650 tonnes de viennoiseries surgelées, destinées à l'export. Donc c'était l'Asie.
Et qui font rentrer de l'argent en France.
Mais d'où vient le beurre, d'où vient la farine? Est-ce que c'est breton et français? Si c'est
non,
pas le cas, je comprends.
Non, qui vient de Bretagne. C'est du Limousin, ça vient de très loin. Et derrière,
Non, mais ça peut aller. Souvent, c'est pas le cas.
Mais après, Pascal Branchu, voilà, je comprends, mais cette usine, vous doutez bien qu'elle va aller s'implanter ailleurs, et tous vos milliers de mètres cubes d'eau, eh ben, ils vont être pris ailleurs, et quelque part, on vit tous sur la même planète, donc cette eau, elle va être prise, cette électricité, elle va être prise. C'est juste qu'elle va être prise ailleurs qu'en France,
et donc
elle va, à la fois, je veux dire, elle va polluer ailleurs qu'en France, mais elle va aussi créer des emplois ailleurs qu'en France.
Alors là-dessus, si vous voulez, Liffré, la particularité, c'est que le captage d'eau est fermé depuis 2009. Les élus n'ont pas reconquéré la qualité de l'eau. Donc l'eau, elle passe par l'eau des parcs de Bretagne, qui est le syndicat du coin, mais qui rachète de l'eau sur Rennes. Et or, en fait, on est sur une aridification de l'eau en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine, et c'est certainement pas le bon endroit pour implanter une usine qui est très gourmande en eau. Alors ils ont dit des chiffres de 200 millions de litres d'eau par an, hein, mm-hmm. pour les enlivrer. Or, c'est exactement la même consommation qu'à Savon qui fait 9 hectares seulement. Et là, on parle mm-hmm. de 21 hectares. Donc, on sait faire les 2-3 et on n'avait pas confiance dans ces chiffres-là. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi prendre du recul par rapport à ces chiffres et ces données. Le DUF, il cherche un autre endroit en France. Il ne veut pas aller à l'étranger. Pourquoi ?
Si, si,
il
va aller
au Portugal. Parce qu'il a des subventions directes. Il a une subvention déguisée, il a une fiscalisation et ça oui, convient très bien le système français.
Non mais vous pouvez, après ouais mais vous pouvez enfin là je suis désolée Pascal Branchou, je veux bien entendre la plupart de vos arguments mais là on est quand même sur un industriel français qui paye ses impôts en France qui a aussi créé beaucoup d'emplois en Bretagne qui est breton d'ailleurs donc à un moment on peut pas traiter tous les patrons d'entreprise de voyous quoi, c'est pas possible. Je veux dire quand vous dites qu'il cherche à défiscaliser etc., ouais enfin il paye ses impôts en France et il aurait très bien mettre toutes ses usines à l'étranger, c'était son droit et c'est pas ce qu'il veut faire. Je veux dire à la base il veut implanter en Bretagne donc
oui, mais on peut tout critiquer. Droit en Chine, c'est-à-dire que
bah, Chine, d'accord mais
non, il va pas en Chine, il va pas en Chine,
il va au Portugal,
il va au Portugal, en Allemagne et aux États-Unis.
On peut pas tout critiquer quoi.
Et au Portugal, on peut pas dire qu'ils aient beaucoup d'eau hein.
Oui, ils ont beaucoup d'eau en Bretagne
parce que c'est pas du travail qu'on parle. On parle de travail à -5, -25 degrés en tenue de cosmonaute, vous avez des accidents du travail.
Ah d'accord, donc alors maintenant, il faut aussi supprimer les emplois. Enfin, mais on s'en sort
non,
plus
non,
là.
Qu'est-ce qu'on entend par emploi ? Je vous assure que nous, on fait du porte-à-porte. Alors, ouais. J'invite Eric à venir nous rejoindre le 10 juin, parce que c'est en fin de commune, hein, ouais. Il n'y a pas de souci. Et en fait, nous, on a des témoignages contraires, on fait du porte-à-porte, où en fait, on informe les Français de ce qui allait arriver. Et c'est vrai qu'ils tombent des nues parce qu'ils n'avaient pas du tout été informés de tout ça.
Si et vous avez, et bien sûr, et donc en fait pour diriger cette usine, on est bien d'accord, il n'y a que des gens qui vont travailler par -20 degrés, avec des charlottes sur la tête, etc. Je ne crois pas en fait. Hein. Je veux dire, dans une usine, il y a tout type. Bah non, c'est pas la réalité. Dans une usine, il y a tout type de métier. Je veux dire, je suis désolée, mais dans une usine, bah vous avez des contremaîtres, vous avez des patrons, vous avez des gens qui dirigent les chaînes, vous avez des ingénieurs, vous avez des gens de la DRH, des gens de la RSE qui s'occupent justement de savoir où va l'entreprise écologiquement et socialement. Vous pouvez pas me dire, il y a pas que des ouvriers non qualifiés dans les usines. C'est pas vrai ce que vous dites en fait. Ça c'est
non,
pas possible.
J'ai pas dit ça.
Bah
je
si c'est ce que vous dites en fait, on a prévenu la population que du type d'emploi qui les attendait. Bah non, il y a pas que ce type d'emploi
et
dans les usines.
Il y a des témoignages là-dessus qui confirment ça justement.
Ah d'accord, OK.
Des gens qui
bah, je connais pas d'usine, je connais pas d'usine qui tiennent juste avec des employés non qualifiés, ça n'existe pas monsieur.
Tout est automatisé en fait, ils ont besoin de logisticiens, c'est-à-dire des caristes, des choses comme ça, des gens qui surveillent les tapis. C'est pas un emploi quoi.
Et
c'est
pas d'ingénieur. Pour faire marcher les usines, c'est bien connu que il y a pas d'ingénieur, il y a pas d'électricien, il y a pas de. D'accord. Bon,
c'est une logistique en fait qu'il a créé le DUF. Et en fait, c'est l'humain qui donne à manger aux machines, qui font tout de manière automatisée. Donc on perd du savoir-faire pour faire quand même quelque chose qui ressemble à de la malbouffe. Hein. Moi, j'achète pas, donc je sais pas quel goût ça a. Mais au niveau nutritif, bah,
80% des Français les achètent.
Ouais, vous êtes trop riche, c'est pour ça. Hein.
80% des Français les achètent. Pascal Branchou, je dis pas que c'est une bonne chose, mais enfin c'est la réalité. Péricot, je vous laisse terminer.
Le débat est...
Le débat est hyper intéressant.
Moi, je suis par principe défenseur de l'artisanat, de l'agriculture, de l'environnement. Voilà.
Tout le monde
donc j'ai
principe.
Plutôt tendance à considérer que Bridor représente une forme d'alimentation, d'industrie, d'activité économique qui n'est pas celle dont la planète a besoin.
Bien sûr.
Maintenant, je veux regarder le dossier que je ne connais pas dans le détail. Et si on a la garantie que M. Le Duf prend en compte tous les paramètres environnementaux, que les emplois sur le plan social et économique correspondent aux besoins économiques du pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'agro-industrie, tout est automatisé. On n'a plus que des gens qui appuient sur des manettes. Effectivement, une partie de ce que dit Patrick est vrai. Voilà, il faut regarder au cas par cas. Et surtout consulter sur place.
C'est eux qui renoncent. C'est-à-dire que c'est même pas une décision de justice, c'est un processus démocratique ou judiciaire. C'est lui qui renonce.
Il y a un moyen de pression qui est dissuasif pour les chefs d'entreprise. Et c'est sûr que ça marche. Et c'est ça qui a marché finalement. Mais j'aurais voulu que le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine se penche sur le problème et ouvre le débat avec les instances économiques et les instances politiques.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup Pascal Branchu d'avoir été avec nous et puis de nous avoir exposé en tout cas vos raisons.
Sujet délicat. Ouais.
C'était un sujet délicat, mais c'était bien d'entendre aussi tous les points de vue. Merci
sujet
beaucoup.
Essentiel.
Pascal Branchu, on va terminer avec des messages Rémi et le résultat de notre consultation sur Twitter.
Allez, j'ai ce message de Julien. C'est pour ça que ceux qui pensent et disent que l'on peut réindustrialiser la France en un claquement de doigts sont de doux rêveurs.
Exactement.
Construire des usines, c'est comme construire des prisons. Tout le monde est pour, mais chez les voisins, pas chez soi. Voilà ce que nous dit Julien. Et pour ce qui est de la consultation qu'on a fait sur les réseaux sociaux, c'est clair. Alors, doit-on tout sacrifier au nom de l'écologie? C'est non pour 85% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux.
Ah oui, donc c'est quand même une très grande majorité. Tiens, bah dans un instant, on va continuer à parler travail avec l'Allemagne qui réfléchit à mettre en place la semaine de 32 heures. Est-ce que vous y seriez favorable en France? On attend vos réactions, vos commentaires au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Perico Légas, Thierry Moreau et Fred Hermel. Tout le monde est très en forme aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que nous allons aborder tout de suite dans Estelle Midi le combat du jour. Et ce combat, eh bien, c'est celui du puissant syndicat IG Metall qui plaide pour la semaine de 32 heures en Allemagne. Selon ce syndicat, cela permettrait de résoudre la pénurie de personnel qui touche très fortement certains secteurs outre-Rhin. Rémi, est-ce que ce serait le premier pays à adopter les 32 heures?
Alors, non, parce qu'il y a déjà d'autres expérimentations qui sont faites, des tests, hein, notamment en Espagne. C'est le gouvernement espagnol lui-même qui a décidé de mener cette expérience depuis l'année dernière auprès de 200 entreprises. Durant 3 ans, les salariés vont travailler 32 heures par semaine au lieu de 40 actuelles sur 4 jours, sans baisse de salaire. Un moyen, selon les défenseurs de ce modèle, d'améliorer le bien-être des salariés au travail, la productivité, mais aussi de lutter contre le chômage, comme le dit le syndicat d'IG Metall. En France, il y a un autre exemple. Depuis 2021, le spécialiste français de la vente en ligne d'équipements informatiques LDLC, qui est basé près de Lyon, a fait passer le temps de travail de ses salariés à 32 heures hebdomadaires, sur 4 jours également, sans baisse de salaire. Et il faut savoir que le débat est déjà ancien, puisque en 1996, en France, la loi Robien prévoyait dans les entreprises volontaires que les employés pourraient travailler 32 heures sur 4 jours au lieu de 39 sur 5 jours et sans perdre de salaire. Dans les années 2000, on s'en souvient peut-être pas, mais certains s'y sont tentés, comme Fleury Michon, Monique Ranou, encore la Massif, avant finalement de faire marche arrière. La Massif l'avait fait pour l'ensemble de ses agences d'assurance. Le problème, c'est qu'il fallait que ces agences restent ouvertes comme les autres concurrents, et donc il a fallu embaucher davantage de personnel. C'était un surcoût pour la Massif. Et donc, elle a fini par faire marche arrière.
Et puis, il y en a même qui font moins que ça, parce que je crois qu'à la mairie de Paris, ils sont aux 28 heures.
Oui.
Donc, écoutez.
Oui, enfin, la loi les oblige. Les a récemment obligés à passer à 35 heures.
Et après, les rues sont sales.
Ah, bon, bref. Bon, allez.
Bah oui, mais faut pas me lancer là-dessus.
La semaine de 32 heures, est-ce que ça vous tenterait? Je commence avec vous, Thierry Moreau.
Oh bah, sur le papier, oui. Est-ce que vous voulez travailler 32 heures ou 35? Non, mais je pense que c'est un problème qui est très complexe. D'abord, il faut éviter toute loi générale et venant d'en haut, comme on a pu le faire avec les 35 heures en disant c'est les 35 heures et pas autrement. Et les Allemands, d'ailleurs, là-dessus, sont extrêmement pointus. Ils expliquent que ça sera branche par branche, secteur par secteur, entreprise par entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est travailler de 32 heures, ok, mais est-ce qu'on fait la même masse de travail qu'en 35 heures?
Ah bah oui.
D'accord.
Donc mais si t'as pas de perte de salaire.
Vous êtes payé 35 heures. Ok, ouais. D'accord. Parce que sinon, pour les métiers où, par exemple, il y a de l'accueil, il faudra bien embaucher les gens.
Ouais. Ah bah oui.
Donc il y aura.
Parce que l'idée, c'est de lutter contre le chômage.
Donc il y aura. On travaille moins ou on fait travailler plus de gens? Parce que si on fait travailler plus ça veut dire qu'on embauche, ça veut dire que le coût du travail pour une même prestation, puisqu'il faut embaucher des gens, et comme l'exemple de la Massif l'a montré, Ça accroît le coût du travail, et donc il y a bien quelqu'un qui va le payer au final.
Oui, mais en même temps, ça te permettrait, par exemple, pour la Massif ou d'autres, d'avoir une amplitude horaire supérieure, par exemple, ou une production supérieure pour les entreprises, de toutes les manières.
Oui. Si t'embauches. Enfin, ils ont renoncé, donc ils ont dû faire leur calcul quelque part.
Faut voir.
Et puis surtout, moi, ce qui m'énerve dans les arguments des syndicats, c'est que, par exemple, ils disent que ça va faire baisser les déplacements, moins de consommation d'énergie dans les entreprises. Ben non, parce que il y a un moment, le travail, il faudra bien qu'il soit fait sur certains métiers. Ça ne peut pas se faire pour tous les métiers. Les métiers pour lesquels, encore une fois, il faut qu'il y ait des gens présents, et il y en a, des bureaux ouverts, des sociétés de commerce, du service, et bien ces gens-là, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, enfin partout, il faudrait bien qu'il y ait des gens, parce qu'on peut pas, dans un EHPAD, on va pas faire en 32 heures ce qu'on fait en 35 heures, on est bien d'accord.
Ben non, mais comme il manque des gens, t'en embauches.
Donc, on accroît le coût, qui paye? Le résident, l'État, nos impôts? C'est très compliqué.
Fred Hermel, est-ce que quand même, quelque part, c'est le sens de l'histoire? C'est 32 heures, on le voit avec l'intelligence artificielle, l'automatisation. On voit bien que le travail, globalement, est moins pénible aujourd'hui que ce qu'il était pour nos grands-parents.
Ça n'a pas suffi, le fiasco des 35 heures pour le peuple? Le problème en France, ce n'est pas la durée du temps de travail, c'est la rémunération. Ce sont les salaires.
Ce que veulent,
non, mais ce que veulent les gens, c'est gagner plus.
Oui.
Même s'il faut travailler un peu plus, bah, c'est pas travailler moins.
Bah oui, mais quand ils feront une 33e heure, ce sera une heure supplémentaire.
Mais non, ils feront pas. Parce que le problème, c'est ça, le vice caché de tout ça. C'est le patronat qui veut ça, bien entendu. Parce que vous allez travailler moins, mais bien sûr, au moment des négociations salariales, on va pas pouvoir vous augmenter, puisque vous. Voilà, oui. C'est donnant-donnant.
C'est un choix.
Sauf que la plupart des gens n'ont pas le choix.
Si les Français veulent ce choix.
Les Français ne veulent pas, puisqu'on a parlé l'autre jour ici justement que la classe moyenne française c'est entre 1500 et 2500 euros.
La classe moyenne
est de plus en plus précaire. La classe moyenne française est en train de s'appauvrir. La classe moyenne française et la classe inférieure veut travailler pour avoir plus d'argent. Elle veut pas plus de loisirs, elle veut plus de travail, plus d'argent.
Et les temps partiels ne sont pas choisis en France.
Ne dis pas les Français ne veulent pas plus de loisirs, parce que majoritairement,
la priorité,
vous préférez avoir plus de loisirs ou travailler plus.
C'est fin de mois. C'est pas d'avoir 2 heures de plus de repos par semaine. C'est de pouvoir donner à bouffer à ses enfants. C'est ça la réalité du pays. Encore une fois, c'est une idée de gens aisés.
Si on te donne la même chose pour 35 heures et pour 32, évidemment, tu vas vouloir bosser 32.
Ton salaire, il sera pas augmenté. Parce que
il sera le même.
C'est ce que disent un certain nombre de messages sur Direct Studio. C'est bien beau de nous faire travailler 32 heures, mais si on n'augmente pas les salaires, qu'est-ce qu'on va faire de notre temps libre?
Mais c'est exactement vrai.
Tu vas travailler au noir.
C'est un levier pour le patronat de maintenir des salaires bas en disant, attendez, je vous ai réduit de 3 heures votre temps de travail, vous n'avez pas en plus me demander une augmentation. Donc c'est le peuple qui perd là-dedans, c'est évident. Ça, pour les bourgeois, c'est super. Hein. Pour les bourgeois des start-up et tout ça, c'est parfait.
Les bourgeois des start-up,
Si tu parles des cadres,
les cadres, ils bossent 50 heures par semaine.
Mais il y a toute une catégorie.
Il n'y aura pas de cadres à 32 heures, ça c'est sûr.
Le problème, c'est que c'est une. Dans une économie ultra florissante, avec de hauts salaires, on pourrait avoir cette réflexion. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas possible, c'est pas ça dont a besoin ce pays.
Perico fait plein de mouvements avec ses jambes, des mouvements compulsifs. Ça, c'est la preuve qu'il est très énervé. Oui, c'est très impressionnant.
Aujourd'hui, je vais être prudent. Voyez.
Ah bon
Remets
ta veste.
J'ai vu l'arrivée de 35 heures. Alors. Est-ce que la conquête sociale, c'est l'abolition du travail ou sa réduction?
C'est pas l'abolition.
Ben si, on abolit un travail.
C'est l'organisation.
Non, c'est quand même considérer que le travail est un châtiment, une punition, une épreuve, que c'est pas dans la nature des êtres humains et que le but, c'est de travailler un peu moins. Ça me dérange pas, on est tous d'accord au-dessus, hein, même si on aime bien ce qu'on fait. Et si l'émission ne durait qu'une demi-heure, je serais extrêmement frustré, ma chère Estelle. Ça pourrait arriver.
Attendez, je réfléchis. Ça dépend des jours. Allez,
voilà, ça dépend des jours. Bonne réponse. Moi, ce que je veux, c'est que ce temps récupéré pour vivre, je puisse en jouir dignement. Avec quel argent?
Mais tout n'est pas qu'argent, Berico.
Non.
Une balade en forêt, ce n'est pas de l'argent, par exemple. Quand je vous dis ça
sur la malbouffe, en disant tout n'est pas que grande distribution agroalimentaire.
Ce n'est pas qu'argent.
Alors voilà, mais quand je vous dis ça, qu'on peut faire une omelette à la maison et une soupe au poireau, vous me dites, mais ça, on n'a pas le temps, là.
Si on était aux 32 heures, on aurait le temps, vous voyez.
Non, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est un problème de cotisation sociale. Voilà. Et les entreprises, il y avait Groupama, La Massif, même Innova, qui ont fait les 30 heures, ils sont revenus en arrière parce que c'était pas viable. Alors qu'il y ait des secteurs d'activité dans un contexte économique bien donné et social qui peuvent se le permettre, et peut-être pas toute l'année, en fonction de la productivité et de la demande, pourquoi pas adapter? Il faut de l'ouverture. Moi, je me souviens, il y avait un leader syndical que vous n'avez pas connu, qui s'appelait André Bergeron, qui était le patron de Force Ouvrière.
Oui.
Il parlait de politique contractuelle. Contractualisons tout en fonction des besoins de cette planète, de cette humanité, de nos attentes, des travailleurs. Il y a des boîtes où il peut y avoir des secteurs à 32 heures, d'autres à 35, d'autres qu'à 40. Moi, l'idéal pour moi, c'est 38 heures payées 40.
Voilà. D'accord.
Donc 32 heures payées 32, ok, mais 32 heures payées 32. Mmh. Le smicard qui a 32, qui passe de 35 à 32 heures payées 32 au smic, je sais pas s'il va être très content d'avoir 32 heures. Et si on lui impose, je pense qu'il aura raison d'être très 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 mécontent.
C'est ça. Voyez,
voilà. Après, tu parlais de cotisation, mais si on avait proposé aux Français, par exemple, la réforme des retraites, la retraite à 65 ans, en échange de la semaine de 32 heures. Et bien, si ça se trouve, la réforme des retraites, elle serait passée crème.
C'est une option.
Tu vois?
Ça sous-entendait une réflexion globale sur le travail, ce que n'a pas voulu faire le gouvernement.
Et bien, c'est bien dommage.
On est d'accord.
Cette réflexion, je veux dire, elle aurait été la bienvenue.
Les syndicats étaient prêts à le faire.
Et je suis sûre que la plupart des gens préféreraient travailler plus longtemps mes moins dans la faire. Semaine, histoire d'avoir effectivement plus de loisirs ouais. Et ça. Et ça permettait aussi, d'avoir plus de cotisations parce que tu aurais travaillé 3 ans.
Ah oui. C'était le contraire qui était intéressant. Et je crois que c'était François Bayrou qui avait proposé.
Absolument.
D'ajouter oui. Une heure de
c'est
travail 36 par semaine.
36 heures et demie.
C'est le modèle.
Une heure et demie de plus. Et conserver la retraite à 62 ans. Et c'était une très bonne idée.
La solution d'Estelle a été prise.
Non, je préfère ma solution.
C'est une très bonne idée.
Mais vous avez inspiré le modèle, à ce que je vois finalement.
Oui, mais c'est pour ça que non, c'est l'inverse. Le modèle, il voulait travailler plus pour s'arrêter plus tôt. Moi, je voudrais travailler moins pour m'arrêter plus tard.
Ça revient au même.
Non, pas du tout.
Mais c'est un rééquilibrage.
C'est la souplesse.
D'ailleurs, on peut prendre les deux en fonction de.
C'est ça,
voilà.
C'est la souplesse.
C'est très intelligent. C'est très intéressant.
Je suis assez d'accord avec vous, mais vous savez, je me surprends.
Alors que le débat sur les retraites, c'était un débat de borné, à tous les sens du terme.
On est d'accord,
alors,
on
a 30 secondes pour prendre Frédéric qui nous appelle de Marseille et qui est routier depuis 23 ans. On embrasse bien tous les routiers qui nous écoutent, ils sont très nombreux, tous les professionnels de la route. Salut Frédéric.
Salut, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Ça va
bonjour.
Bien Frédéric.
Ça va, merci vous.
Super. Vous travaillez combien d'heures par semaine Frédéric, vous qui êtes routier?
Entre 50 et 60 heures par semaine, à peu près.
Ah oui, oui évidemment. Oui, alors donc ça vous ferait un mi-temps, quoi.
Ah moi, personnellement, oui, c'est sûr que je serais content, ça fait déjà ce que vous m'intéresse en plus. Mais après, le problème, c'est pour les gens qui sont SMIC, oui. pas ceux qui sont déjà embauchés dans une entreprise, mais ceux qui seraient d'entreprise.
On vous entend super mal, Frédéric.
Et pourtant, j'ai le téléphone à l'oreille.
Ouais, là, c'est mieux.
Et c'est ceux qui changeraient d'entreprise. Comme ça s'est passé pour les 35 heures. Ceux qui sont restés dans la même entreprise sont payés 39, alors qu'ils en font 35. Mais dans les entreprises, on est payé 35 heures.
Ouais, bien sûr.
Et ça passerait encore là. Et ça baisserait encore le SMIC, et ça ferait déjà encore moins bien payé qu'avant. Donc, je trouve pas ça très bien pour eux. Après, pour moi, oui, très bien. Alors, pour ça, c'est des semaines de 12 heures, s'ils veulent.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tout le monde trouve ça personnellement plutôt pas mal et tout le monde aimerait bosser juste 32 heures. Mais finalement, quand on regarde collectivement, c'est une autre mayonnaise. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. Dans quel sens vous les messages que vous recevez, Rémi, sur l'application RMC?
C'est très rien, mais en général, beaucoup de gens, comme le disait Fred, pensent d'abord à gagner davantage avant de travailler moins. C'est le cas de Mathieu, par exemple, qui vous dit « Bonjour, travaillez moins pour gagner autant. Bien sûr que ça va plaire aux Français. Vous y mettez une retraite à 55 ans pour tous. Et là, c'est le paradis. Les gens ont perdu le goût du travail, nous dit-il. Malheureusement, moi, je fais 42-45 heures par semaine et je me sens bien. Et je ne veux pas diminuer et je veux gagner plus. »
Et le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Rémi?
C'est très partagé. Très partagé. C'est le non qui l'emporte, mais d'une courte tête, à 53% des personnes qui sont prononcées sur les réseaux sociaux.
Comme quoi, vous voyez, il y a encore la valeur travail, Péricolé.
Alors, je dirais le sens du travail, parce que valeur travail, goût du travail, le sens du travail.
D'accord. Allez, dans un instant, Anthony Morel, qui viendra sur ce plateau, nous donnera un bon plan. Il vous permettra d'avoir une télé 4K gratuite. Bah, ouais, gratuite. Bon, il y a une toute petite contrepartie, bien sûr, mais on vous en parle dans un instant sur RMC.
Quoi 4K?
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
1050 dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On accueille tout de suite Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Et Anthony Morel, aujourd'hui, vous faites du bien à notre pouvoir d'achat, à notre porte-monnaie. Comment? Eh bien, en nous offrant gracieusement, gratuitement, une télévision 4K. Bon, évidemment, il y a une petite contrepartie.
Oh, une petite astuce. Il faut bien lire la petite astérisque tout en bas, quand même. Vous connaissez le dicton, si c'est gratuit...
Y a un loup. C'est vous le produit.
C'est vous le produit, exactement. Il y a un loup, c'est un mélange de faute d'expression. Mais voilà. Mais c'est exactement ça. Et c'est le principe de cette télé qui s'appelle Teli, alors qui est sortie aux États-Unis, pas encore en France, mais ça va sûrement arriver en France. Donc elle est gratuite, c'est une télé 4K, hein, donc haute définition, 55 pouces. En gros, elle coûterait 1000 euros normalement. Mais là, vous ne payez. Ouais, c'est quand même pas mal. Elle ne coûte rien, mais, le petit truc, c'est que vous allez être soumis à de la publicité non-stop. En fait, c'est un peu ça le principe. Alors, cette télé, elle est un peu particulière. On la voit pour ceux qui nous regardent à la télé, précisément. Donc, en gros, vous avez une télé classique en haut, une barre de son, et puis en dessous, vous avez un petit bandeau sur lequel vont défiler des informations, la météo, les cours de bourse.
C'est chouette, ça.
Alors, ça, c'est sympa, mais il y a un petit encart avec de la pub en permanence. Alors, ça prend pas beaucoup de place. C'est comme un écran d'ordi, ça. Mais c'est toujours là. C'est ça le truc. Même, y compris quand vous éteignez la télé d'ailleurs. Alors quand vous la débranchez, non, mais si vous l'éteignez, vous la mettez en veille, vous avez quand même le petit écran avec la petite pub.
On peut mettre un scotch dessus.
Alors vous pouvez mettre un scotch dessus.
Ah bah oui.
C'est peut-être
terminé.
C'est pas mal. C'est pas
l'esthétique.
La télé bébé qui est défiguré avec un scotch en dessous. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est une technique. Enfants. C'est une technique, ça fonctionne. Alors en plus, c'est des publicités ultra ciblées parce qu'évidemment, la télé, elle va analyser tout ce que vous faites, vos habitudes de consommation, ce que vous regardez à la télé, combien vous êtes à la maison, et donc elle va vous donner des publicités qui vont vous donner envie d'acheter des choses. Et ça va même plus loin que ça, puisque cette télé, elle va vous proposer toujours avec ce petit bandeau des jeux, des sondages auxquels vous pouvez répondre par la télécommande et vous allez avoir des bons d'achat. Donc vous allez gagner de l'argent avec votre télé. Vous aimez bien, vous ?
Bah ouais.
Ouais, c'est vrai. Bah non, mais après, mais c'est un débat. C'est vraiment, l'idée, c'est vraiment échanger finalement de l'attention contre un produit.
De la data, en fait.
Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais en fait, c'est un peu le même principe que aujourd'hui, quand vous regardez la télé, quand vous regardez des programmes, vous regardez Estelle Midi, bah, c'est gratuit la télé parce que vous regardez des publicités. Là, c'est la même chose, sauf qu'on finance non pas une émission, mais on finance un objet électronique, tout simplement, le poste de télé. Il y a d'autres initiatives dans ce goût-là. Amazon avait testé ça, par exemple, avec des liseuses électroniques. Ouais. On payait moins cher sa liseuse, mais on était soumis à de la publicité. Donc voilà, il y a vraiment ce mécanisme-là qui est en train de se mettre en place de plus en plus.
Alors, c'est quand même très, très intrusif. Qui est prêt, en fait, à être exposé à autant de pubs pour avoir une télé gratuite ?
Vous, visiblement, déjà.
Oui, bah, moi, oui. Mais moi, non, c'est pas la pub. Moi, j'aime bien répondre à des sondages en échange de bons d'achat.
Ah, c'est vrai. Mais ça, vous savez, il y a plein. Alors, c'est à ça que je voulais en venir aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de modèles qui se mettent en place autour de ça, au-delà de l'exemple de cette télé. Vous avez plein d'applications maintenant sur les smartphones qui proposent de répondre à des sondages. Vous êtes rémunéré pour ça. En gros, c'est on échange du temps de cerveau disponible contre un peu d'argent. En général, c'est des centimes d'euros ou des fractions de centimes d'euros, mais ça fonctionne. Il y a même une application américaine qui s'appelle Pre-Show qui allait encore plus loin. C'est-à-dire qu'eux, ils proposaient par exemple des places de cinéma. Donc, c'est quand même un petit budget, une place de cinéma. Ouais, voilà. Maintenant, c'est 15 euros. Aux États-Unis, je crois que c'est même encore plus cher que ça. Et là, en gros, vous deviez regarder, je crois que c'est 15 minutes de pub. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est 15 minutes.
C'est énorme.
C'est énorme. Et surtout, parce que le but, c'est d'éviter que vous trichiez. Parce que.
Bah oui, tu laisses ton téléphone dans le salon, puis
tu vas faire pipi. Mais voilà, tu fais autre chose.
Pipi 15 minutes.
Ouais, enfin, ce qu'on veut. Oui. Et en fait, là, le truc, c'est qu'ils utilisent la caméra et le système de reconnaissance faciale du téléphone pour être sûr que vous êtes bien en train de regarder la pub et que votre regard ne se détourne pas.
Ça ne va pas.
Donc là, ça va quand même très, très loin.
Et c'est dangereux quand on fait pipi et qu'on tient le téléphone.
Alors aussi, déjà, le téléphone dans les toilettes, moi, je suis content. Enfin, c'est un autre débat. Ah, mais non, mais c'est anti-hygiénique au possible, c'est pas possible. Vous nettoyez le téléphone à chaque fois après?
Puis ça peut tomber.
C'est tout le sujet, bah, excusez-moi.
Bah, non, mais d'accord, mais bah, non, voilà.
Le téléphone est déjà très sale à la base.
C'est tout. Oui. Bon, bref. Oui,
c'est ça. C'est une autre chronique.
On fera une autre chronique là-dessus, il n'y a pas de souci. Non, mais en gros, voilà, cette idée d'échanger de l'attention contre de l'argent, ce qui montre le succès de ces offres, notamment chez les jeunes, en ces temps de pouvoir d'achat contraint. On voit aussi, par exemple, les offres de Netflix, là, avec associé à de la publicité, vous payez moins cher votre abonnement Netflix.
C'est insupportable.
Bah, c'est insupportable, mais ça fonctionne très, très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes. Pour, contre 4 minutes de publicité par heure de diffusion, vous avez un bon rabais sur l'abonnement, quoi.
Merci beaucoup, Anthony Morel. En tout cas, voilà, on va avoir des télés gratuites grâce à vous ne fumez pas, Anthony Morel ?
Ah non, je fume pas.
Non, parce que c'est la journée mondiale sans tabac. Et on va se demander dans un instant, dans Estelle Midi, s'il faut passer le paquet de cigarettes à 20 euros pour dissuader les fumeurs. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.